C'est ta radio.
C'est votre web radio.
C'est ta radio.fr. C'est ta radio.
C'est ta radio.
Pop.
L'amour est une descente à vélo, un tour de France, un gros joint. Quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins. Carla retourne, Carla retourne, retourne là. Et pourquoi pas faire le tour de la terre. Il est quelle heure au Guatemala. J'ai jamais pris de fusée horaire, toujours suivi les mêmes schémas. Carla retourne, Carla retourne, retourne.
Et bienvenue en direct dans Radio Vélo en ce lundi 2 mars, lendemain du Grand Prix de Montastruc. Ça s'installe ici dans le studio. Et oui, les conditions du direct avec tous ces nouveaux moyens techniques qui marchent feu de Dieu là. Le timing ne rigole plus, mon ami Julien. Bienvenue.
Bonsoir à tous et à tous. J'étais coincé derrière un camion.
J'en doute pas pour venir à Boulogne. Il y a les camions poubelles, les tracteurs, mais il y a quand même pas de camion. Me dis pas ça.
Il y a des artisans qui travaillent très très tard.
Ah oui.
Et l'un qui rentrait, mais on était coincé. Voilà, une bonne quinzaine de voitures. Mais bon, on est là, on est présent. Après un bon petit week-end bien chargé, on s'est régalé hier.
Ah oui, c'était intense hier. 4h10 de direct pour le Grand Prix de Montastruc. On va y revenir. Avant cela, laissez-moi accueillir Aymeric également.
Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Qui est à mes côtés, tout comme Guillaume.
Bonsoir tout le monde.
Bienvenue. Et vous êtes nombreux également derrière votre smartphone, derrière votre PC. Qu'est-ce qu'il y a, Julien, avec ce fil?
Mais branche-le, faut que tu le branches, ce fil de l'autre côté là.
C'est
pas grave.
Vous me cassez un petit peu tout. Faut qu'on se remette en route avec le Grand Prix de Montastruc. Hier, j'étais en train de dire que oui, vous êtes toujours plus nombreux à réagir également sur le Twitter. Je salue justement Claire, Max, Seb, tous ceux qui sont bien autour des réseaux sociaux pour bien nous faire vivre toutes vos réactions et puis également la page Facebook Radio Vélo et les podcasts parce que les podcasts il y en a ceux du Grand Prix de Montastruc qui sont désormais disponibles, Julien.
Et 4h, combien tu disais, 4h de direct, 4h10 de direct?
Ouais, 4h10 de direct que nous avons partagé hier du début jusqu'à 13h30 jusqu'à l'arrivée aux alentours de 17h et la victoire de Thibaut Nuns de l'Océan Top 16. Il faisait partie des outsiders de ce Grand Prix de Montastruc.
Ouais, il faisait partie des outsiders, il faisait partie des coureurs qui étaient présents dans ce gros groupe qui s'est dessiné dès l'amorce de la Côte d'Or à Comore, puisque
en deux morceaux, il s'est dessiné.
Oui, c'est des scènes de morceaux, mais je veux dire que l'échappée est partie en haut de la Côte d'Or à Comore, un peu comme à l'accoutumée, un gros groupe qui s'est détaché à ce moment-là. Après, ça s'est rescindé, ça s'est reformé. Ils sont partis au kilomètre 90 avec Guillaume Gerbeau, si je me trompe pas. On discutait hier avec Stéphane Pouillès qui pensait pas qu'ils arrivaient au bout, et c'est vrai qu'ils sont partis un petit peu sur ce Grand Prix de la montagne. Pas en facture, parce que bon, ils ont quand même bien monté ce Grand Prix de la montagne. Et du coup, derrière, ça s'est un petit peu regardé, c'était un petit peu hésitant. Et puis, malgré qu'ils soient quasiment presque une trentaine en arrivant sur le petit circuit, en aucun moment, ils ont réduit l'écart. Au contraire, ils ont maintenu une 0,5, une 10. Moi, je pensais vraiment que derrière, ça allait mettre en route. L'équipe de Périgueux a énormément travaillé pour essayer de combler le retard, mais bon, rien n'a fait. Ils ont vraiment, vraiment bien manœuvré.
Ouais, surtout quand c'est une surprise dans le sens où habituellement rentrer avec une minute à peu près sur le petit circuit avec un groupe conséquent aux fesses, c'est pas assez. D'habitude, c'est pas assez.
Ouais, c'est pas assez, surtout quand en général on l'a vu par les éditions précédentes, ça revient très très vite et les coureurs très forts reviennent de l'arrière et la course il y a il y a un mouvement qui se fait de coureurs qui viennent, qui rentrent de l'arrière, des coureurs qui étaient devant qui se font lâcher, certains qui arrivent à suivre. Alors que là, bon, là, là, il y a vraiment une, hier, Stéphane Pouillet disait qu'il reapprenait à courir dans des courses amateurs. Moi, justement, j'ai trouvé qu'hier, il y avait une sélection qui s'était faite à chaque fois par l'arrière. Ça s'est passé quand même comme ça, puisque du groupe des 30 qui étaient en poursuite vers les deux hommes de tête, le groupe s'est cassé, s'est fractionné en plusieurs morceaux et ne sont restés que les meilleurs aux avant-postes. Ils ont été 4 à pourchasser, enfin ils étaient un peu plus au début.
Ils ont été 5 puis 3.
5 puis 3. Mais je pensais, je pensais que vraiment ils allaient rentrer. Je me disais, bon, mais quand est-ce qu'ils. Je pensais qu'à 3 tours de l'arrivée dans le mur, ça allait vraiment attaquer, ça allait mettre un gros coup d'accélérateur pour essayer de les reprendre. Mais ça n'a pas été le cas, quoi. Devant, ils avaient vraiment été très forts, même si dans la montée, comme à un moment donné, on l'a vu, ils perdaient un petit peu de temps. C'est vrai qu'au sommet de cette côte d'Angalina, quand ils virent à droite, ils avaient du vent de dos et c'était profitable aux hommes de tête. Donc vraiment.
Ouais, surtout que tous les deux de la même équipe, donc ils s'entendaient très très bien. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas relâché l'effort à un seul moment.
Ouais, mais en fait, tu regardes, t'es deux quand même derrière à rouler. Et ceux de Périgueux, ils étaient quatre coureurs à rouler derrière. Il y avait des coureurs de Montauban qui sont mis à rouler aussi. Moi, je dis vraiment un chapeau parce que deux coureurs, même on les savait en forme. Hein. Mais là, moi, j'ai vraiment été impressionné que même pas l'écart soit réduit au moins de moitié, quoi.
Puis fallait être courageux de partir si tôt parce qu'il y avait beaucoup de vent. C'est vrai que c'était quand même, moi, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de vent.
Derrière, quand on voit qu'il y avait dans l'échappée,
c'était pas là pour qu'il y ait pas crête derrière non plus. Hein,
Non.
Je pense qu'un élément de réponse, c'est que le début de course a été extrêmement usant. C'est parti super vite. On voit Max qui nous racontait un petit peu hors antenne et sur nos réseaux sociaux internes un petit peu sa course de l'intérieur. Et il s'est dit en fait en début d'épreuve que ça allait être l'édition la plus rapide sur le rythme de la première heure. Et au final, le vainqueur arrive avec 10 minutes de plus que l'an dernier. Et Max a eu une impression visuelle qui, a priori, lui a été confirmée par des spectateurs, qui est que le mur se grimpait moins vite que d'habitude. Donc je pense qu'il y avait il y a eu beaucoup d'usure générée par le début de course, qui fait que les chasseurs en avaient peut-être tout simplement plus sous le pied pour revenir à la fin, quoi.
Alors après, est-ce qu'il n'y a pas des équipes qui ont voulu laisser faire peut-être Blagnac qui était là en force?
C'est vrai, si tu veux, que bon, il y avait Johan Verardo, il y avait Romain Campistrou qui était le leader de l'équipe. Hein. On aura David tout à l'heure avec qui on y reviendra. Et c'est vrai qu'ils avaient misé très fortement sur ces deux coureurs-là. Malencontreusement, quand il se passe ce qui se passe, ils ont mis en route. Je sais pas si c'était forcément la bonne solution sur une course comme ça. Je repense encore une fois à Tom Boonen qui se fait taper samedi, de me dire que des fois, faut pas avoir peur de brouiller un petit peu les cartes, de mettre d'autres coureurs justement pour,
Bon, on va appeler Gilles Girardot, le président organisateur du Grand Prix de Montastruc, pour avoir son sentiment.
Ouais. Autre chose qui me frappe au niveau de la transition, parce qu'il faut savoir qu'en fait, dans l'échappée au départ, il y avait Romain Campistrou qui était présent, donc Blagnac ne roulait pas. C'était Seb Lessart qui s'était fait un petit peu piéger, qui assurait la poursuite tous les quatre. Et ensuite, Campistrou a crevé. C'est là que Blagnac a mis en route. Et c'est vrai que ce qui est assez surprenant, là encore, c'est Max qui le soulignait. Et c'est assez étrange, c'est qu'il y ait que l'armada de Blagnac, finalement, au niveau de la réduction d'écart sur l'échappée, faisait pas mieux que les quatre Saboliens. Est-ce qu'ils ont pas voulu peut-être trop gérer aussi Blagnac? Ils auraient peut-être dû rentrer plus vite aussi.
Ah oui, parce qu'avec le nombre qu'ils étaient, c'est pas normal qu'ils roulent pas plus vite. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être eu une course d'attente. Ils se sont dit, on va laisser peut-être travailler les autres, sauf que personne d'autre ne voulait y aller.
Au final, personne d'autre voulait y aller. Ils n'ont pas réellement réduit l'écart. Oui. C'est Campistrou qui a dû y aller finalement tout seul pour rentrer sur le groupe. Et les efforts qui ont été concédés par Romain
il est rentré tout seul sur cette partie. Alors, il avait quand même du vent favorable, mais parti après Azaz, très très vallonné, qui faisait vraiment mal aux pattes. Il s'est vraiment employé pour rentrer. Alors oui, il est rentré, mais au prix de quels efforts. En plus, quand il est rentré à ce moment-là, il y avait du vent de côté pour remonter sur la roue de la crête qui vient de Garrigues là-haut. Il s'est vraiment employé. J'ai vu que ça cassait le groupe de devant qui cassait. Et lui, il a sauté de groupe en groupe, mais il a vraiment dû s'employer pour revenir devant, quoi.
Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas erreur tactique un peu de Blagnac de pas être rentré plus tôt quand ils en avaient les moyens?
Après, ils ont roulé très très fort jusqu'à la au pied de roi Corserrière. Quand ils les avaient à portée de fusil, il a fait ce qu'il fallait faire, quoi. Il a attaqué dans cette bosse de roi Corserrière. Il a tenté de réduire l'écart, mais bon, il a chassé pendant, 10-15 kilomètres.
Allez, vous réagissez bien sûr sur le Twitter @radiovelo31, notamment si vous étiez à Montastruc. Tiens, on a quelqu'un au téléphone qui
était lui
à Montastruc et qui l'a bien vécu de l'intérieur. C'est Gilles Girardeau, le président organisateur. Gilles, vous nous entendez? Il faut on enclenche Gilles. Gilles, vous nous entendez?
Très bien, oui.
Bienvenue. Bienvenue en direct.
C'est moi.
Radio Vélo.
J'avais pas appuyé sur le bouton. C'est pour ça qu'on t'entendait pas.
Je crois qu'on aurait dû prendre un RTT aujourd'hui, Gilles, parce que le lendemain de Montastruc, c'était un peu difficile. Gilles, pour vous, c'est décompression le lendemain de Montastruc ou il y a encore des papiers?
Non, il y a dès 7h30 ce matin, bon nombre de sites internet qui veulent des classements, qui veulent des réactions. Donc souvent, je travaille encore un peu le lundi, on va dire.
D'accord, donc on imagine les commentaires, on vous donne votre avis, comment s'est passée la course. Et ce que vous pensez du vainqueur, justement, qu'est-ce que vous en pensez de Thibaut Nuns, que vous avez probablement aussi croisé plusieurs fois par le passé, notamment dans les courses que vous commentez?
Exactement, moi c'est Thibaut, je crois qu'il avait 11 ans la première fois que j'ai vu sur un podium. Et puis c'est vrai que très souvent quand il venait courir en Midi-Pyrénées, il était sur le podium, il était interviewé et donc j'ai vu son évolution, j'ai vu son ascension et ça fait plaisir de voir un gamin qui est sorti de d'école de vélo, des minimes, des cadets, et qui aujourd'hui, en junior, il avait quand même remporté la Bernaudot junior, c'est pas rien. Et il a été malade, il a eu un an et demi très difficile, il a su rebondir. Je pense qu'il est. Je discutais hier avec le médecin de la course. Il me disait que, en discutant avec lui, il avait vu vraiment quelqu'un qui sait où il va. Il a les idées très claires. Bon, il veut peut-être aller un peu vite parce que son objectif, c'est de passer pro en 2016 ou 2017 au plus tard.
Ouais, donc c'est une grosse ambition ça, Guillaume, plusieurs vainqueurs de Montastruc sont passés pro.
Oui, voilà, parce que là il a tout juste 20 ans, il aura 21 ans au mois de mai et puis il montre déjà un très très gros potentiel. Donc après c'est pas interdit de rêver, je pense que il a raison d'avoir de l'ambition. Après voilà, effectivement, faut pas griller les étapes.
Excuse-moi, je voulais revenir un petit peu sur l'édition d'hier. On a une édition avec moins de partants que d'habitude. Par contre, on a une vitesse moyenne qui a été plus rapide.
Vitesse moyenne 41 km/h. Je vais pas regarder, mais c'est une des plus belles moyennes. Mais je crois qu'on a déjà eu par le passé 42 km de moyenne.
Moyenne année.
Voilà, avec des on peut jamais trop comparer parce que le vent n'est jamais le même.
Ouais, exactement, exactement.
Il n'y a pas de vent. Et je pense que ça a été, comme vous l'avez dit en tout début d'émission, ça a été très musclé d'entrée. Je pense qu'il y a les coureurs qui sont pas encore prêts, pour le début de saison, ils ont vite été émoussés et ça a fait des dégâts. Ce qui est dommage, c'est que effectivement Guillaume Gerbeau n'a pas été récompensé entièrement parce qu'il crève tout près de l'arrivée. Je pense qu'il aurait pu maintenir la deuxième place. Romain Campistrou, il crève aussi, il fait beaucoup d'efforts. J'aurais bien voulu le voir dans le final aussi avec. Et puis Johan Verardo, qui est tombé deux fois, qui a crevé, qui est en forme, il en a remporté deux déjà cette année. C'est vrai qu'on aurait pu avoir un final où il y aurait eu un peu plus de concurrence, on va dire, vis-à-vis des deux coureurs d'Océane, quoi.
Ouais, donc un Grand Prix de Montastruc en tout cas où les meilleurs coureurs régionaux se sont encore battus, se sont encore montrés aux avant-postes. Et c'est vrai que quand on voit ce que certains ont fait par ailleurs, notamment Loïc Chétou tout ce week-end du côté du Sud Ardèche, c'est vrai que Nuns a toutes ses raisons de d'espérer pour la suite. Gilles, comment ça se passe alors ensuite pour vous? On referme l'édition et puis on prépare tranquillement la prochaine. On souffle entre-temps quand même.
Ben, on va souffler un peu, mais dès la semaine prochaine, on va faire un débrief à froid, comme on dit. À chaud, c'est jamais bon. À froid, parce que bon, pour toujours améliorer. On a vu que des certaines choses améliorées. Moi, il me tient à cœur aussi, comme je l'ai dit la semaine dernière, de créer un site internet avec un peu d'animation et ouais, pouvoir l'envoyer comme ça à tous les clubs de division nationale. Puis d'un autre côté, ben, ça me fera moins de travail entre guillemets à répondre à des sollicitations par mail notamment, en envoyant le lien à tous les clubs. Voilà, donc on va essayer au niveau communication d'améliorer un peu. Moi, je voudrais revenir sur la sécurité. Hein, on fait partie des rares épreuves à avoir autant de signaleurs à pied au départ de l'épreuve. Il y en avait 110 quand même hier. Chaque année, on est obligé d'en rajouter à cause de certains îlots de directionnels ou certaines constructions nouvelles, hein, des petits lotissements autour de certains villages. Donc ça augmente chaque année. On était, je crois, à deux près, on devait être 200 sur l'organisation en tout hier. Donc c'est quand même une grosse organisation. Moi, je remercie aussi la gendarmerie. On avait, je crois que c'est assez rare, la voiture de la gendarmerie qui était derrière la voiture de Jeannot Maraval, avec deux lieutenants-colonels. Je pense que Henri Dafargue m'a dit que même dans le Tour de France, il n'y a pas des gens si haut gradés. Donc, ils ont fait un bon boulot parce que la sirène dans certaines portions, certains villages, la voiture qui bloquait certains carrefours en plus de nos signaleurs. Donc je remercie beaucoup la gendarmerie qui a promis de revenir avec peut-être un peu plus l'année prochaine à Montastruc.
Bon, mais en tout cas, l'organisation s'est bien déroulée, un beau vainqueur. On va refermer cette page Grand Prix de Montastruc que les gens peuvent retrouver et bien sûr la page de Céta Radio, rubrique podcast. Vous allez sur le site internet de Céta Radio, rubrique podcast, et vous avez l'intégralité en plusieurs parties du direct d'hier et puis également le débriefing avec notamment Stéphane Pouliès et Gilles Girardeau. On va vous remercier, Gilles, en tout cas, d'avoir encore une fois œuvrer autant pour cette course qu'on a plaisir à suivre, en tout cas.
Et moi, je vous renvoie donc l'ascenseur Radio Vélo, parce que comme je le dis toujours, hein, je vais essayer de faire au niveau du comité Midi Pyrénées une communication un peu plus intense, parce que grâce à vous, on peut vraiment vibrer du vélo chaque semaine, du direct, mais aussi votre émission, celle d'aujourd'hui, l'émission hebdomadaire qui est superbe. Et je rajouterai juste, en dehors de ça, que plusieurs personnes m'en ont encore dit hier, et bon, c'est pas une surprise, la Moto Info, Julien Allemand, ça, je pense que on pourrait lui remettre le prix de l'excellence, parce que y a pas beaucoup d'autres courses où on a autant d'informations précises, régulières, avec toujours la passion du vélo.
Mais c'est pour ça, il est bavard, on est obligé de faire de la radio le lundi, vous comprenez, Gilles, c'est dur pour nous aussi.
Oui.
Ah, Gilles, je suis passionné comme toi tu l'es pour organiser cette course qui t'est chère. Et quand on est passionné, bon là on fait du mieux qu'on peut. Et, voilà, donc je te remercie, mais en tant que passionné toi aussi pour ton épreuve, voilà, ton épreuve elle est parfaite encore une fois au niveau sécurité, ça s'est bien passé. Je te remercie l'ascenseur parce que c'est difficile de l'organiser aujourd'hui.
Merci à tous et puis. Bientôt sur une route.
À bientôt sur une route et dimanche, la Radio Vélo, Gilles. Merci.
À bientôt, Gilles.
Merci.
Merci. Oui, dimanche, c'est le Grand Prix de Albi-Albi, le sacré fameux prix d'ouverture d'Albi-Albi.
Et tu vas nous le raconter lundi prochain.
Je vous le raconterai. On se trouve avec Gilles là-bas pour vous donner de nouvelles.
Merci, Gilles. Bonne soirée. Le vainqueur. Merci, Gilles. À bientôt.
Merci à vous. Bonne soirée. Et j'écoute la suite de l'émission. Au revoir.
Merci, Gilles. À bientôt. C'était donc Gilles Girardeau en direct dans Radio Vélo.
J'ai des précisions quand même parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui voilà, notamment Romain Campistrou qui me dit qu'il entend parfaitement notre analyse, et pour un petit peu éclairer ce qui s'est passé, c'est que lorsque il y avait cette grande échappée, donc il était en compagnie de Julien Michelena dans cette échappée, que donc lui a crevé, il s'est fait rattraper, donc c'était aux alentours de Rabastin, si je me rappelle bien, il y avait à peu près 30-40 secondes. Mm-hmm. À ce moment-là, donc tous les coureurs du GSL Loignac se sont mis enroulés, 7-8 coureurs. Forcément, devant, comme il y avait un coureur, ils ont eu du mal un petit peu à boucher le trou. Le but, c'était de rapprocher un petit peu le peloton et lui-même donc des hommes de tête pour en rentrer comme enfin ce qu'il a fait. Donc voilà, il précise bien que l'entente était parfaite et que la course était parfaite des coureurs du GC Le Bagnac. Voilà, je tiens à le préciser parce que je veux pas qu'il y ait des sous-entendus, des malentendus.
Bon, on aura tout à l'heure eh bien, David Escudé, on lui fera un petit coucou.
Voilà Romain.
C'est bien d'avoir les points de vue et les récits comme ça de plusieurs coureurs qui étaient de l'intérieur, qui l'ont vu, parce que c'est vrai que tous le ressentent pas forcément de la même manière, et on a plusieurs instantanés.
J'étais quand même bien placé puisque j'étais comme un coureur, sauf que j'étais pas à fond. C'est vrai qu'à un moment donné, quand Blagnac a mis en route, ça a mis en route. Bon après. Des fois on ne peut être 7 à rouler derrière, si devant ça vite des fois on rentre pas aussi bien qu'on voudrait rentrer.
C'est un moment où Périgueux roulait aussi pour emmener mes spoulettes sur les GPM. Qu'est-ce qu'ils amenaient sur les GPM?
Ça c'était si tu veux à la sortie de Rabastens quand Romain a crevé et qu'il était devant, il s'est fait dépanner, il a été repris par le peloton sur la grande route de la sortie de Rabastens, et à ce moment-là donc ils se sont mis à rouler, que quand on est repassé après à Bessières qui a eu ce coup un petit peu de bordure où déjà ils ont laminé une partie du peloton et que l'écart était retombé, si vous vous rappelez l'écart est retombé à 30 secondes quasiment, je vous ai dit attention les gars, l'écart redescend, se rapproche, et qu'après l'écart a à nouveau augmenté devant, s'est à nouveau réaccéléré. Il est repassé aux alentours des 50 secondes à l'entrée de Roxerrière, et c'est là que Romain est sorti, et il était à peu près à même 25 secondes dans la montée. Donc voilà, bon, ça s'est fait toujours dans cette minute-là, quoi.
Mais elle le gagnera un jour, Romain, qu'il soit un petit peu patient. Il en gagnera d'autres.
Il est jeune, il a le temps de le gagner.
Faut pas trop patienter quand même. Dans moins de 30 secondes, la petite pause, et puis on revient tout de suite après avec Samuel Dumoulin, qui a remporté hier une très belle épreuve. Julien, il signe son retour.
Ouais, j'ai regardé le final. La descente qu'il fait derrière les coureurs, pas très très loin, descente très tortueuse. C'était pas mal.
Bon, et bien on va en parler avec lui dans quelques secondes. On revient dans 2 minutes dans Radio Vélo.
L'amour est une descente à vélo, un tour de France, un gros joint. Quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins, car la retourne. Car là, retourne-la. Et pourquoi pas faire le tour de la terre? Il est quelle heure au Guatemala? J'ai jamais pris de fusée horaire, toujours suivi les mêmes schémas.
De retour en direct dans Radio Vélo, Julien, avec un nouvel invité.
Et bonsoir Samuel Dumoulin, comment ça va depuis hier?
Bonsoir, ça va. Écoutez, j'ai pas trop mal récupéré. Et puis, ouais. Après victoire, on sent toujours bien. On a la morale au beau fixe.
Je regardais encore la vidéo de cette arrivée encore tout à l'heure, où j'attendais les commentaires de dire on retrouve Samuel puncher bagarreur dans une descente très rapide. Ça s'est passé. Ouais, c'était une descente assez tortueuse quand même.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce final, ouais, justement, Samuel?
C'est vrai que la course, elle était très tendue. On a eu des conditions climatiques qui étaient difficiles toute la journée. C'était une course avec des grands circuits, mais des petites routes très techniques, une succession de montées et descentes. Donc ouais, ça rend toujours le peloton assez nerveux parce qu'on veut se placer à chaque fois à l'amorce des difficultés. Et puis après, bon, dans le final, il y a eu un écrémage. On était un petit peu parti groupe et voilà, c'est arrivé assez tendu en bas de la dernière bosse. Bon, c'est une difficulté qu'on avait repérée déjà parce qu'on avait pu l'emprunter au tour précédent, donc je connaissais les lieux et voilà, je savais qu'il fallait basculer en tête. Mes coéquipiers, dont moi de l'équipe du Arrêt Mondial, ils m'avaient bien briefé là-dessus. On dit après, une fois que tu seras dans la descente avec tes qualités, on pourra pas te reprendre. Donc ouais, j'ai appliqué un peu leurs consignes à la lettre et j'ai fait attention de pas faire de faute, et parce que c'est vrai que c'était un final très technique en ville, de temps qu'il y avait plu, donc faut toujours se méfier un petit peu des plaques d'humidité. Et moi, ouais, j'ai pu rallier réglé en solitaire.
Ouais, et puis surtout que derrière, c'était pas le new tout, quoi. Donc il fallait vraiment rien lâcher et prendre le maximum de risques jusqu'à cette dernière petite ligne droite où on peut savourer à ce moment-là la victoire.
Ouais, bah, une fois que j'ai produit mon effort, après je me suis pas retourné. J'ai pensé qu'à donner mon maximum tout en dépassant pas la limite. Bah, bon, je sais que j'ai des bonnes capacités de descendeur, donc voilà, une fois que j'ai vu la moto de télé qui s'était intercalée derrière moi, je savais qu'il y avait un petit écart et je me suis vraiment appliqué à tourner le plus vite possible et voilà, quand je me suis retourné après le dernier virage à l'entrée de la ligne droite finale, voilà, j'ai vu personne et je savais que c'était gagné.
Ouais, on a vu à un moment donné aussi Romain Bardet se mettre bien à la planche pour toi, alors qu'il venait, il avait plutôt annoncé qu'il venait lui pour faire un truc, hein, pour faire un résultat sur cette course. Ça s'est passé comment? C'est lui qui t'a dit qu'il était un peu court sur le final, qu'il allait t'emmener. C'est toi qui lui a dit que tu te sentais bien, qui lui a demandé un coup de main. Ça s'est passé comment cet échange de bons procédés?
On n'a pas vraiment le temps de parler. En fait, notre stratégie, elle a changé un petit peu dans la côte située à 25 km de l'arrivée. On a perdu Michael Chérel sur Crevaison, donc ça a retrouvé seulement deux coureurs H2R à la mondiale à l'avant avec Romain. On était quand même un groupe assez conséquent, donc on a essayé de contrôler sur la partie de transition. Et puis, dans la dernière difficulté, il y avait un groupe qui s'était détaché, là on a fait le forcing tous les deux, puis lui s'est retrouvé dans un petit groupe devant moi. Donc moi ça me permettait de, à l'arrière, de pas avoir travaillé. Lui il a essayé de rentrer sur la tête, étant donné qu'il y avait deux coureurs trek devant, les cinq hommes roulaient assez vite. Lui il est pas arrivé à faire la jonction, et bon, quand on l'a rattrapé, on s'est pas parlé, en fait il a compris... Il a vu à mon allure que j'étais encore bien et voilà, je lui ai dit bah vas-y roule. Et puis il a pris un long relais de bah, quasiment 2 km, je pense, jusqu'au pied de la dernière bosse. Donc là j'ai encouragé un maximum pour qu'il reste vraiment le plus près possible du groupe. Je le criais dessus et voilà, mais c'était dans l'intérêt du collectif. Et moi ça m'a mis dans une position où j'avais la pression de du résultat, et j'aime bien ça, et du coup ça m'a galvanisé pour la dernière montée, et j'ai tout donné avec succès.
Puis au final tous ces efforts ont été payants du coup.
Ouais, tous ces efforts.
Enfin tous vos efforts à toute l'équipe, ça fait plaisir, voilà, quand ça marche comme ça, quoi.
On est 8, tout le monde était vraiment très concerné par la course, et tout le monde s'est employé, chacun à son niveau, soit dans les échappées, soit dans le rôle d'équipier, à donner son maximum, et c'est ce qui fait que en ce moment on décroche des succès, parce qu'on court les uns pour les autres, on essaie d'affiner nos stratégies avec nos meilleures cartes, mais là on voit que même un gars comme Romain, il a su se sacrifier pour moi, donc ça montre la bonne mentalité qu'il y a dans l'équipe.
Ça laisse présager ça de bonnes choses pour la suite de la saison, là.
Oui, ben on est reparti sur des bases solides. Voilà, en 2013 on a créé un peu un groupe et une méthode, surtout dans les courses à étapes, et l'année dernière on a commencé à vraiment récolter les fruits de tous ces investissements. Et voilà, pour 2015 on avait demandé à ce que le groupe soit pérennisé, donc c'est ce qui a été fait. On a eu seulement 4 changements dans l'équipe, et le fait d'avoir des habitudes avec d'autres coureurs, des liens paternel, où on a gagné ensemble, on a perdu ensemble, on a une osmose, et maintenant on a vraiment nos automatismes en course. Le travail des équipiers, il est reconnu, donc ils n'hésitent pas à le faire à 100%, et ça nous permet de gagner en confiance, de vraiment nous imposer dans le peloton, et on a un statut de leader au niveau de l'équipe. On sait que maintenant au départ d'une course, ben on est dans les 2-3 équipes qui vont jouer un peu le scénario de la course. et on l'assume pleinement avec confiance et on va jusqu'au bout de notre démarche et ça paye en fin.
Il y a des auditeurs qui nous posent des questions, notamment est-ce que tu as trouvé le temps cet hiver pour réfléchir à une stratégie pour remporter la traditionnelle course de Sulkis à Vincennes cette année?
Non, je ne suis pas passé loin l'année dernière, il ne m'a pas manqué grand chose. Il faudra déjà que je me classe dans les 5 premiers de la Coupe de France et puis à ce moment-là je verrai pour la stratégie.
Samuel, peut-être un dernier mot sur les prochaines courses où on pourra te suivre?
La prochaine course, ça va vite arriver, ça sera à Paris-Nice à partir de dimanche avec un prologue avant 6 étapes et un dernier contre-la-montre pour le Col d'Aise à Nice le dernier jour. Et puis ensuite, j'enchaînerai avec Milan-San Remo, une course que j'ai pas disputée depuis 2009. J'espère bien faire là-bas, d'avoir bien récupéré de Paris-Nice pour... je pense que je pourrais jouer ma carte avec Rinaldo Nocentini. Et le parcours, ils l'ont remis avec un peu à l'ancienne, avec peu de difficultés. Et surtout, ils ont changé le site d'arrivée qui sera plus au bord de la mer, mais sur la Via Roma. Donc je vais essayer de m'attacher à faire une belle course là-bas, parce que Milan-San Remo, déjà, c'est une chance de pouvoir la disputer, mais étant donné que je suis en bonne condition et que ça arrive souvent en groupe d'une quarantaine, cinquantaine d'hommes forts, faire partie de cela et tenter de faire un beau résultat au sprint.
Guillaume, pour terminer, non, c'est bon?
Non, c'est bon, mais c'est vrai que une très belle course en forme. C'est vrai qu'on voit que le collectif AG2R, est formé par Vincent Lavenue depuis deux ans, ça paye, et de pas changer une équipe, des fois, effectivement, ça porte ses fruits.
Une cohésion qui se met en place.
Voilà, une cohésion qui se met en place et qui manquait peut-être dans certaines équipes. Là, on voit que dans AG2R, apparemment, la sauce a bien pris, donc tant mieux.
Bon, Samuel, en tout cas, merci d'être passé dans Radio Vélo et puis on vous souhaite une bonne suite de saison.
Merci à vous.
Merci, à bientôt. Bonne soirée.
À bientôt, au revoir.
Au revoir. C'était donc Samuel Dumoulin en direct dans Radio Vélo. Et avant de retrouver une chroniqueuse Radio Vélo qui gère également les réseaux sociaux, Claire, qui était sur les épreuves ardéchoises ce week-end, on va écouter justement la petite chronique qu'elle nous avait envoyée au propos de Samuel.
Le doigt pointé vers le ciel, puis les deux, c'est ainsi que Samuel Dumoulin a franchi la ligne d'arrivée de la Drôme Classique hier. Pas le sourire habituel, des moments plus détendus, non, mais des mâchoires serrées, de celles qui disent tout le travail, toute la rage de vaincre, aiguisée, quand on a connu le doute, renforcée par 22 mois sans victoire. Hier, c'est toute l'équipe AG2R La Mondiale qui a fait front autour de Samuel. Dans le bus au départ, Jean-Christophe Perrault lui a glissé un retentissant « T'es notre meilleure chance aujourd'hui ». Et après une tentative avortée, c'est Romain Bardet qui s'est mis pied au plancher dans la dernière ascension pour que le Savoyard s'envole vers la victoire. Le même Romain Bardet qui, pleine balle sur la ligne d'arrivée, trouvait le temps de lever le pouce en signe de victoire. Puis, plein d'émotions, Michael Chérel est venu trouver le vainqueur du jour en zone mixte pour le serrer dans ses bras. Et le soir même, on voyait fleurir des Team Spirit sur Twitter. L'esprit d'équipe, primordial au cyclisme. Belle leçon hier pour cette équipe qui est quand même, rappelons-le, montée sur le podium du dernier Tour de France.
Et oui, on espère que vous avez pu entendre cette petite chronique. On s'excuse pour les petits soucis de son. Samuel Dumoulin, donc qui a retrouvé la victoire, après près d'un an et demi, c'est vrai, ça sans lever les bras, c'est bien évidemment assez long pour un sprinteur, Guillaume.
Oui, pour ceux qui avaient suivi Radio Vélo à l'époque, on avait reçu Jean-Christophe Sierra qui fait des chaussures sur mesure à côté de chez nous, et Samuel Dumoulin donc porte ces chaussures là sur mesure, donc cette année victoire avec Samuel Dumoulin avec François Pervis, donc des chaussures sur mesure qui gagnent. C'est vrai que pour Samuel Dumoulin, une très bonne chose. C'est vrai qu'un an et demi, ça doit être long. Après, niveau professionnel, il est ce qu'il est. Tous les coureurs veulent gagner.
Et puis bon, il a un profil particulier, également puncher. Voilà. Et puis il est dans une équipe où il y a beaucoup de personnes qui.
Beaucoup de cartes à jouer.
Qui ont des ambitions. Julien, on fait un petit point peut-être sur justement ces épreuves ardéchoises qui montent.
Qui mieux que quelqu'un qui était sur place pour nous raconter un petit peu de ça. Bonsoir Claire, comment ça va?
Bonsoir, très bien, merci.
Bon, comment ça s'est passé ces deux jours?
Très très bien, en plus la météo était là samedi, un peu moins dimanche, Samuel l'a dit tout à l'heure, ça que c'était compliqué, il y avait pas mal de pluies d'averses, mais le soleil est revenu juste pour l'arrivée, donc ça allait.
Alors, c'est vrai que ce sont deux épreuves, la Drôme Classique et la Classique Sud d'Ardèche, qui année après année, montrent leur potentiel. Hein. C'est vrai que cette année, la télé était d'ailleurs arrivée sur l'épreuve à nouveau, et c'est vrai que on a l'impression que c'est des épreuves de plus en plus appréciées. Le plateau est aussi de plus en plus relevé. Comment tu l'as vécu, toi, Claire? Tu partages ce sentiment?
Ouais, c'est exactement ça. En fait, leur force, c'est vraiment que ce sont des courses difficiles dans le sens où c'est très accidenté et les coureurs le savent très très bien. Enfin, si Romain Bardet l'a remporté l'an dernier pour le dimanche, c'est pas pour rien. Ils sont affûtés en début de saison. Ils aiment bien ça en préparation pour Paris-Nice ou pour d'autres courses comme ça en mars. C'est vrai qu'au départ, ils étaient tous en train de dire c'est compliqué, c'est difficile et autres. Il n'y avait que ceux qui l'avaient quasiment jamais disputé, les membres d'Orica par exemple, Klinetsch, qui nous disaient peut-être que ça va finir au sprint et autres, mais on a bien vu que non.
C'est vrai que ce sont des épreuves qui montent, disait Aymeric.
C'est des épreuves qui montent, et puis malgré le fait que le niveau serait hausse, on voit que qu'on a des coureurs régionaux qui auraient bien marché, notamment samedi on a eu Julien Loubet qui fait un super truc, qui passe à pas grand chose, hein, de la victoire. Il en met peut-être un peu trop dans les derniers kilomètres, qui fait que à toute fin il lui en manque pour aller chercher ses Pulveda.
Il a eu des crampes, Julien Loubet, dans les derniers kilomètres, et c'est exactement ce qu'il disait. C'est qu'il en a peut-être fait trop, mais il avait vraiment envie de se montrer parce que ça faisait quelques années qu'il n'était plus dans le peloton professionnel, et même au départ, il avait vraiment envie de faire quelque chose. Malheureusement, peut-être trop aussi, parce qu'il a abandonné rapidement le dimanche, du coup, au premier tour. Mais je crois qu'il a fait ce qu'il avait à faire, il était assez content malgré tout.
Ouais. Ouais, je pense qu'il est conscient de la chance qu'il a d'être repassé chez les pros. Il a vraiment pas envie de manquer cette opportunité là et c'est vrai qu'il en a peut-être forcément un peu trop fait. Bon, ça va lui servir de leçon. Maintenant, il a fait une excellente course samedi, ça a pas payé, c'est dommage, ça, il est pas passé très loin, mais bon, je pense qu'on va le revoir d'ici peu.
Le temps est compté avec beaucoup d'invités ce soir, Claire, alors juste pour rajouter un petit mot, est-ce qu'il y a des coureurs qui t'ont marqué ou qui va falloir suivre dans les prochaines semaines?
Le numéro de Samuel Dumoulin était vraiment vraiment énorme hier, hein. Ce que l'équipage des Deux-Heures a fait était incroyable. Après, ce qui était aussi fort, c'était l'armée de terre qui s'est vraiment vraiment bien débrouillée sur ces deux jours, qui s'est montrée samedi énormément, en essayant ils ont loupé le premier coche, les premières échappées, ils se sont rattrapés, ils ont essayé de mieux faire, et puis Romain Combeau a signé une 8e place notamment. Ça, c'est intéressant. Après, pour les coureurs à suivre cette semaine, moi je peux surtout vous dire que Jean-Christophe Perrault est en retard sur sa préparation, donc il n'hésite pas du tout Paris-Nice et les courses de début mars, en tout cas il suivra un peu plus tard cette fois, voilà.
Bon, merci en tout cas pour ces précisions, et puis merci en tout cas d'être passé dans Radio Vélo. On te laisse continuer tes autres activités, vu que tu œuvres bien sûr pour le collectif Radio Vélo, Claire.
À très bientôt, avec plaisir.
À très bientôt, merci. Claire, bien sûr, qui vous fait réagir sur les réseaux sociaux et sur le Twitter @radiovelo.
C'est d'avoir son avis un petit peu de voilà, sur place, de voir un petit peu déjà l'état de certains coureurs, de préciser qu'il y en a qui sont en avance, qui sont en retard. Ça nous donne un petit peu la physionomie des prochaines courses qui vont arriver.
Perrault, moi j'avais discuté avec lui chez Between, et déjà il me disait à l'époque qu'il était en retard, parce qu'effectivement, en tant que dauphin sur le Tour de France, il avait été beaucoup, très médiatisé, beaucoup invité, donc il a pris beaucoup de retard. Donc, mais bon, il en est conscient, donc après je pense qu'il vise le Tour, il reste encore quelques semaines, il sait se préparer pour arriver le jour J. En bonne forme.
Allez, avant de finir l'émission avec la chronique matos dans les 10 dernières minutes, on va passer un dernier coup de fil, décidément riche en coups de téléphone. On est sponsorisé par France Télécom aujourd'hui.
Un petit résultat pendant que Julien appelle. Ludo, oui, le même Ludo qu'il va y avoir du sport, hein, notre Auvergnat de service, qui nous donne le résultat du circuit de la vallée du Béda, qui est la course d'ouverture des élites, hein, là-bas. Et c'est un certain Sylvain Georges du team Pro Imo qui s'est imposé là-bas.
Voilà,
il y a quelques temps, non ?
qu'on avait, oui, il y a de cela une quinzaine de jours. Dans Radio Vélo, on avait fait le point avec lui. Et oui, la saison est bel et bien lancée. Paris-Nice qui pointe le bout de son nez pour la fin de semaine. Les classiques, Julien en a parlé tout à l'heure avec Yann Stanar qui avait coiffé toute l'équipe Etix Quick-Step. Et puis également hier Cavendish qui a vengé cette même équipe sur Kuhn-Bruxelles-Kurn. Bref, chez les pros, chez les amateurs, ça n'arrête pas. Et pour terminer la parenthèse amateur avec le Grand Prix de Montastruc dont on a parlé en long en large, le dernier œil, c'est celui d'un directeur sportif pour être complet, Julien.
Mais oui, celui qui était à l'œuvre hier, qui était aux commandes du Blagnac Vélosport. Bonsoir, de Monsieur David Escudé, comment ça va depuis hier?
Oui, bonsoir à tous. Oui, ça va très très bien, merci. Ouais.
Bon, on débriefait tout à l'heure là, et justement Romain m'a envoyé un petit message pour un petit peu bien expliquer un petit peu le déroulement de la course. C'est vrai que cette malchance entre la chute de Johan Verardo que tu m'expliquais hier et la crevaison de Romain, c'est ça fait partie de la course, comme tu disais.
Ben tout à fait, oui, c'est vrai que bon, Montastruc nous tenait à cœur, bon, parce que c'est une magnifique épreuve et nous l'avons remportée ces trois dernières années précédentes. Donc c'est vrai que vu les résultats que nous avons eus sur l'histoire basque, c'est une course que nous avions cochée pour ce début de saison. Bon, malheureusement, déjà d'une part, un de nos piliers, Lyon Larignaga, n'a pas pu se déplacer puisqu'il a été victime de soucis gastriques cette semaine. Et puis ensuite, bon, sur le terrain, bon, on a perdu un de nos leaders, qui est Johan Verardo, sur deux chutes. Il a chuté une première fois sans trop de gravité. Et ensuite, donc, il a pris les risques insensés pour revenir au plus vite dans le peloton, puisqu'il y avait déjà quelques escarmouches. Et là, malheureusement, dans une descente sur un sol humide, il a perdu le contrôle. Il est tombé assez lourdement à près de 70 km heure. Donc, bon, heureusement, pas de gravité. Mais bon, il était quand même assez brûlé et puis bon, choqué. C'était la deuxième fois, c'était la fois de trop. Et voilà, donc on perdait un coureur au bout de 40 km qui était quand même une de nos pièces maîtresses. Heureusement que Julien Michelena avait pris le premier bon coup qui était à l'avant. Et ensuite, bon, Romain Campistrous a pu suivre l'échappée des gros bras, puisque, comme vous avez pu vous en apercevoir, il y avait quand même une vingtaine de coureurs devant et il y avait tous les favoris, donc Romain se devait d'y être, c'était parfait. Et puis après, donc, il a percé à Ravastens et là, bon, comme il n'y avait que 40 secondes, moi j'ai pas pu être derrière pour le dépanner, il a été repris donc par le peloton. Et là, la situation était pour nous inconfortable, dans la mesure où il y avait une vingtaine de coureurs devant, il n'y avait plus que Julien. C'était pas le leader désigné lors du briefing, donc il fallait qu'on réagisse au plus vite et on a été contraint de rouler, quoi. Alors voilà, donc on pouvait pas attendre, puisqu'après il fallait garder cette échappée de visu, puisqu'après, connaissant le circuit par cœur, sur des routes sinueuses, si on perdait le contact, après ça, c'était fini. Donc il fallait de suite remettre en route, rouler pour essayer de ramener Romain dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse réintégrer l'échappée, chose qu'il a fait. Et je retiendrai le collectif, quoi, parce que c'est vrai que on a mis du temps pour rentrer, mais bon, faire un tempo, ça s'improvise pas. J'ai toujours appris à mes coureurs de ne jamais rentrer trop vite sur une échappée. Donc je pense qu'ils ont quand même bien géré. C'est notre cinquième course de la saison avec un groupe qui est très jeune, et je crois que bon, pour une cinquième course, pour un des premiers tempos que l'on fait de la saison, c'était quand même pas trop mal, quoi. Voilà.
Ouais, surtout que c'est revenu très vite à sortie de Buzet, on est revenu très vite à 30 secondes. Ils ont mis un grand coup de bordure entre Bessières et Buzet, que ça l'avait mis un petit peu partout, et moi je prenais les écarts, d'un coup c'est tombé à 30 secondes, j'ai dit ça va rentrer, puis après ça a raccéléré devant.
Alors tout simplement, pour la simple unique raison, il y a eu des variations effectivement d'écart, tout simplement parce que les gars sont mis à rouler à Ravastens, donc là on était à peu près à une quarantaine de secondes, après c'est rentré à une trentaine de secondes, et puis il y a un petit talus après que l'on prend à l'inverse du premier GPM Bessières là, que je connais bien, qui est assez étroit, et là on avait décidé de gérer, quoi, à ce moment-là, de rester collectif, soudé, donc c'est pour ça qu'on a perdu un peu de temps dans cette petite montée. Mais par contre, après, quand on est redescendu sur Bessières, là, il y avait une portion de route qui s'est prêtée avec un vent de trois quarts favorable. Et là, c'est vrai que les gars, bon, ils ont tout mis. Et puis, c'est là où ils ont vraiment réduit l'écart et que le peloton a explosé en plusieurs morceaux, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même eu un beau collectif, quoi. Et puis, bon, on pouvait pas rentrer plus vite parce qu'il y avait quand même devant les plus forts. Donc ça a été mano à mano pendant pas mal de kilomètres, et voilà, donc c'est les points positif que je retiendrai de cette journée, voilà, qui a été pour nous assez difficile. Bon, et puis après Romain qui est revenu. Alors on voulait pas ramener tout le peloton, il faut le savoir aussi. Notre objectif c'est de nous rapprocher le plus près possible pour remettre Romain en course, parce qu'après on n'avait pas d'autres cartes à abattre pour le final. Et on voulait bien sûr pas ramener tout le peloton, quoi, voilà.
Ben David, justement, ben pour clôturer peut-être ce retour sur le Grand Prix de Montastruc, un mot quand même, votre œil de spécialiste sur le vainqueur Thibaut Nuns. On imagine que c'est quelqu'un que vous suivez, que vous connaissez depuis quelque ouais. temps. Votre œil sur ce vainqueur?
Ben de toute façon, déjà, je crois qu'on a eu une belle course, hein, une belle course, un très beau podium. Et lors de mon briefing du matin, j'avais cité les quatre premiers, je les avais cités, quoi. Voilà, donc pour moi c'est pas une surprise. Et Nuns, bon, bien sûr, c'est un coureur de très très haut talent, de grand talent, et puis je pense que c'est un coureur qui a aussi beaucoup d'avenir dans le milieu du vélo. Et bon, c'est pas une surprise, hein. Il est membre de l'équipe de France Espoir. Il est souvent à l'offensive, c'est un coureur courageux, c'est un coureur qui va de l'avant. Et puis bon, on peut tirer aussi un coup de chapeau à cette équipe d'Océane qui a bien manœuvré. Et moi personnellement, je pensais que c'était un peu suicidaire, puisqu'il y avait quand même derrière deux grosses équipes comme Montauban et Périgueux. Mais bon, ça a quand même été favorable pour eux, on doit leur tirer le chapeau. Mais bon, un très très beau vainqueur et un très beau podium aussi, ouais.
Bon, eh bien, on va clôturer donc ce Grand Prix de Montastruc, 60e qu'on a partagé ensemble. Vos prochains rendez-vous, David, rapidement?
Ben là, donc, dimanche prochain, il y a le Grand Prix d'Albi pour une équipe. Il y aura aussi certains coureurs qui seront sur le Tour du Pays de Langon samedi. Et ensuite, on enchaîne avec deux grosses classiques, Châteauroux-Limoges et Bordeaux-Saintes. Le 22, nous ferons le Sainte-Livrade, et ensuite on partira en Bretagne pour le Grand Prix Gilbert Bousquet et les boucles gaulonnaises qui sont la deuxième et troisième manche de la Coupe de France. Voilà.
Eh ben, beau programme, beaucoup d'occupations dans les prochaines semaines, Julien.
Ouais, un programme chargé. Et bon, après voilà, il faut continuer à rester sur la barre haute, on va dire.
Tout à fait. Ouais.
Merci David de passer à la radio. Merci bonne soirée.
À bientôt.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir. Au revoir. C'était donc David Escudé du GSC Blagnac Vélosport 31. On a bouclé la boucle du Grand Prix d'ouverture, je crois, Julien.
Moi, je pense qu'on a été complet. Ben voilà, non, je voulais avoir l'œil de David un petit peu, parce que c'est vrai qu'on en a discuté un petit peu. Bon, ils ont manqué de machin, ça fait partie de la course. Hein. Chute, crevaison, quand ça ne veut pas sourire, ça ne sourit pas. C'est vrai qu'il a pris une digue et c'est vrai, quoi. Ils ont mis tout à l'heure pour essayer de rattraper un petit peu le temps perdu. Maintenant, comme je le dis tout le temps, hein, c'est plus facile d'être devant que quand on est derrière de rentrer. Hein, donc,
Et ouais, c'est vrai que je pense que c'est ce qui les perd au final, c'est que par rapport au moment où ils ont pu se rapprocher au plus près, mais à ce moment-là, c'était pas favorable pour Romain pour sortir et pour boucher les quelques secondes qui manquaient. Et quand c'est redevenu favorable pour que lui puisse sortir, et ben entre-temps, l'écart avait un peu recreusé. S'ils avaient réussi à tenir à leur cadence quelques kilomètres de plus et à mener Romain au pied de la bosse avec juste 20 secondes de retard et pas 40 ou 50, ça aurait peut-être été différent. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que les routes sont plus les mêmes. Quand c'est une route large, ça se prête bien à faire une poursuite. Dès que ça se rétrécit, que ça devient plus sinueux, c'est moins facile.
C'est une classique comme on a les classiques belges. C'est une course qui se court. Voilà, il faut être devant, toujours bien placé, parce qu'il y a des chutes, parce qu'il y a pas des monts, mais il y a de belles côtes ici aussi. Il n'y a pas de pavés, mais les routes sont glissantes. C'est un peu la même stratégie de course.
On le voit d'ailleurs au fait que la moindre mésaventure peut coûter la victoire.
Exactement.
Allez messieurs, on va terminer cette émission avec les 7 dernières minutes, la chronique matos. Guillaume, le retour de la chronique matos, bien sûr, avec Matos Vélo Cycloblog qui était armé d'un appareil photo hier, je crois avoir vu passer quelques photos. Hein.
Oui, et d'ailleurs, je remercie j'ai un motard de la sécurité qui m'a transporté hier
Allez, Morel.
Voilà, sur plusieurs points du circuit, c'est très agréable, même si je suis pas super en confiance en moto, mais voilà, avec des pilotes surdoués comme ça, ça se passe très très bien. Après, j'ai pas fait de photos sur la moto.
Ouais.
On va attendre quelques années encore, c'est un métier.
Où est-ce qu'on peut les voir ces photos alors?
Sur le site cycloblog.fr, j'ai mis en ligne les photos que j'avais, enfin les plus réussies, on va dire, Il y en avait plus que 230 sur les 1400 prises hier. À un moment, bon. Faut faire le tri, sinon ça fait beaucoup.
Ah, oui. Guillaume, est-ce qu'il y a des infos, des remarques, des choses qui t'ont surprise ces dernières semaines dans le monde du vélo?
Alors, côté matos, c'était il y a 3-4 jours, Polar qui annonce enfin la sortie du Polar V650. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que ça dure depuis un an, c'est un Polar qui se met à concurrencer Garmin, en fait, avec un compteur GPS. Jusqu'à présent, ils n'étaient pas allés sur le secteur du GPS. L'année dernière, il y a un an pile, ils avaient annoncé la sortie de ce Polar pour le mois de mai.
Ils avaient retardé.
Voilà, ils avaient retardé. Après mai, c'était septembre. Après septembre, décembre. Enfin voilà. Et là, ça y est, il sort enfin. Donc là, je sais plus trop quoi en penser parce que depuis le temps qu'il retarde, j'espère qu'il est super au point parce que là, s'il y a un bug, ça va être catastrophique pour eux. Donc je vais l'avoir en test bientôt, mais voilà, j'espère que ça va être un très bon produit parce qu'avec plus d'un an de retard, ils n'ont pas le droit à l'erreur.
Donc à suivre de près, mais ça se confirme en tout cas, ça avance.
Ça y est, il est disponible, enfin. Ensuite, alors là c'est plus tellement du vélo de route, mais comme certains j'en vois parler sur les forums de transmission automatique, en fait comme une boîte de vitesse automatique sur une voiture, il y en a qui espèrent un peu ça sur un vélo. Et Shimano l'a fait, mais pour l'instant sur des vélos assistance électrique. Ils viennent de sortir une version qui peut changer les vitesses toute seule en fonction de la cadence de pédalage. Donc je pense qu'ils proposeront peut-être un jour l'option sur un vélo de route, on sait jamais. Mais voilà, moi j'y crois pas trop sur un vélo de route.
Et puis j'ai du mal en fait à imaginer l'intérêt que ça pourrait avoir, en tout cas pour une pratique sportive, pour du tourisme pourquoi pas, mais
voilà, c'est pour ça, pour l'instant ils l'ont sorti sur un VAE, là je vois très bien l'intérêt avec des gens qui veulent pas spécialement s'embêter à passer des vitesses. En course, voilà, je vois pas du tout l'intérêt. Donc.
On le voit, tu faisais le parallèle avec la voiture. En course automobile, les boîtes automatiques, ils en font pas quoi. Ils ont des boîtes assistées électroniquement pour se passer de l'embrayage, mais ça reste le pilote qui décide quand il change de vitesse quoi.
Ouais, donc j'y crois pas trop, mais voilà, je voulais en parler quand même pour pas parler que de la course. Voilà, chez Shimano qui innove un peu sur ce point-là.
Tu faisais le test, je pensais hier, j'ai vu beaucoup de coureurs courir avec des gabas.
Ah, j'allais en parler.
Ah, mais tu vois, la transition, elle est magnifique.
Voilà. Donc, j'ai testé pendant, ça fait plus de 2 mois que j'attends la pluie,
une veste. Ah, c'est
moi le cycliste qui attend la pluie. C'est pas tous les jours facile le métier de testeur. Donc depuis 2 mois, j'avais la veste, une veste créée par Between, donc en fait, pour remplacer, la gaba. C'était l'initiative des coureurs de la FDJ. Là ça fait quelques jours qu'il pleut. Ce matin j'ai fait 3 heures de vélo avec sous l'eau. Pour l'instant mon ressenti, elle est pas aussi étanche qu'une gaba. Par contre elle se comporte quand même très très bien pendant au moins 1h30-2h. On arrive quand même à rester au sec. Par contre elle est beaucoup plus respirante. Alors c'est peut-être aussi le fait qu'elle soit plus respirante, elle est un peu moins étanche. Hein, on peut pas tout avoir. Pendant au moins 1h30-2h, on peut rester bien au sec s'il pleut beaucoup. Après, si c'est de la bruine, on peut rester au sec, je pense, plus longtemps. Mais voilà, c'est un produit qui coûte 70€, je crois, alors qu'une gaba, ça coûte 170€.
Ouf, oui, quand même.
Donc voilà, c'est. Après, une gaba, c'est effectivement très bien aussi, mais tout le monde n'a pas le budget. Mmh. Et c'est comme le disait Julien hier, il y a beaucoup de coureurs qui l'avaient, je crois, notamment de chez Blagnac, que quasiment tous l'avaient. Donc voilà, Between qui sort un modèle. Moins cher et qui peut convenir à tous les cyclosportifs.
De différentes couleurs ou parce qu'ils étaient tous pareils hier?
Alors voilà, le défaut pour l'instant, moi, que j'y vois, il existe qu'en noir. C'est quand on roule sous la pluie, moi j'aime bien avoir des vêtements un peu plus voyants.
Donc. Bah oui.
Alors je sais que Jérémy Roll a fait la remontée chez Between, il avait demandé une jaune fluo. Il a eu sa jaune fluo, donc ils savent faire une jaune fluo. Je pense qu'ils vont en sortir dans l'année qui vient.
Faut être visible sur les routes, tu le dis régulièrement. En tout cas,
Jérémy Roy a fait passer le mot parce que lui aussi il aime bien être visible. Donc voilà. C'est une veste. Je pense que vous pouvez acheter un coureur pro peut-être la gaba. Effectivement, s'il veut faire 4 heures sous la pluie. Après, des cyclosportifs comme nous qui vont aller faire 3 heures sous la pluie. À part moi, quand je vais faire tester. Il y a beaucoup moins de courageux. Ce matin, j'ai croisé personne d'ailleurs. Donc,
avis aux cyclistes qui sont autour de chez Guillaume. Voilà. D'autres infos, d'autres précisions, Guillaume?
Dernière info, juste la marque Rafa, pour ceux qui connaissent, qui va dessiner le maillot du Team Wiggins à partir de cette année. Bon, après, c'est pas trop étonnant parce que
c'est le maillot pour l'équipe de piste, du coup.
Voilà. Donc,
ça devrait être sympa. Hein.
Rafa, voilà, qui équipe déjà l'équipe Sky. Donc, apparemment, Wiggins a bien apprécié leur façon de travailler. Donc, voilà, ils vont équiper le Team Wiggins. Donc, je pense des jolis produits en perspective.
Ouais, on imagine en tout cas que ça doit être vraiment sympa le design, parce que Rafa quand même c'est pas donné hein, mais c'est des trucs assez classe quand même.
C'est très très cher. J'en ai un test à la maison, donc je vous dirai prochainement si ça vaut le prix.
Si ça vaut le prix.
On verra ça.
Bon, voilà, on a été complet, messieurs, pour cette heure d'after Montastruc, on va appeler ça comme ça. Vous retrouvez d'ailleurs les podcasts de nos 4h10 de direct, eh bien, sur le site de CETA Radio, rubrique Radio Vélo Podcast. Et puis, les podcasts des émissions, c'est dès la fin de soirée. N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions, vos petites remarques. Les réseaux sociaux sont là pour ça. Quelqu'un veut rajouter quelque chose, messieurs, autour de la table?
Ah, si, moi, comme j'étais sur la motosécurité hier, juste pour. Pour en parler un peu d'un superbe travail des motosécurités, mais qui sont pas toujours écoutés par les automobilistes qui arrivent en face, qui sont un peu énervés parce qu'ils ont le pain à aller chercher ou je sais pas quoi. Et c'est vrai que là, la présence de la gendarmerie, là par contre, ça aide beaucoup.
Ça calme. Hein.
Ouais, c'est, de suite, ils ont beaucoup plus de poids que des motards en gilet jaune, ce qui est dommage, mais voilà, ça en impose. Donc c'est vrai, mais un super travail, parce que c'est quand même un sacré boulot de faire la sécurité sur tout un circuit. Avec des gens un peu partout, donc je voulais les remercier aussi et puis les applaudir, parce que c'est voilà,
il y avait des conditions très très difficiles, ça glissait dans tous les sens.
Ouais, donc heureusement j'avais un super pilote, donc